en un temps. Alors, c'est une paracha très courte, c'est la 64 psukim, mais elle est extrêmement dense. Et évidemment, ça commence tout de suite. Par, d'abord, il y a un petit problème, c'est pourquoi est-ce que Hachem dit à Moshe, « Daber el kol adat bnei Israël ». C'est un peu lourd. « Daber el bnei Israël » ou bien « Daber el kol aeda adat bnei Israël », c'est une formule lourde. Allô? Oui? Oui, c'est juste, vous avez coupé. On a un terrible orage, alors si vous avez beaucoup, beaucoup de bruit et que vous n'entendez presque rien, c'est pas de notre faute, c'est... Vous pouvez vous adresser au ciel directement. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si vous aurez une bonne communication parce qu'il y a des parasites en ce moment. D'accord. Ok. Ok. Bonne écoute. Donc, elle est courte, mais elle est très dense. Et on commence. Ça s'adresse d'abord à Kol Adat Bnei Israël. La Eda, Adat, c'est la forme construite. La Eda, c'est, je vous ai dit, c'est une communauté témoignante. C'est construit sur Ein Dalet, qui veut dire aide, enfin qui se lit aide, qui veut dire témoin. C'est donc une communauté témoignante. Maintenant, la Adat d'Ebne Israël, Kol Aeda, on sait bien de qui on parle. Ça fait depuis tout le Sefer Vaikra, et même avant, on sait bien qu'on s'adresse à Ebne Israël. Donc, pourquoi c'est nécessaire de dire Adat Ebne Israël, je ne sais pas. Je remarque que ça veut dire ici... Alors, Rachidi, ça veut dire que ça a été dit à tout le clan d'Israël. Pourquoi? Alors, Rachidi dit pourquoi? Parce qu'il dit que chez Rov Goufei Torah Tlouinba, que la majorité des points principaux de la Torah dépendent de, ou sont mentionnés dans cette paracha. Vous savez que beaucoup de Farshim considèrent que d'une certaine manière, Parshat Kedoshim, c'est le développement des Aseret HaDibrot. Il y a un travail qui est fait pour trouver la correspondance des Aseret HaDibrot dans Kedoshim. On ne va pas faire ce travail-là, mais ça donne quand même une idée de l'importance de cette paracha. Et surtout, la première chose, c'est ce qui est dit. Tu leur diras, Obnei Israël, Kedoshim Tiyu. C'est une injonction. Soyez saints. Et alors, ça pourrait s'arrêter là, Kedoshim Tiyu. Mais ensuite, il y a un ajout qui est « Ki Kadosh Ani Hashem Elokechem ». Alors, le mot « Ki », dans la Torah, il a beaucoup de significations possibles. Ici, par exemple, ils ont traduit « Car je suis saint ». C'est-à-dire que vous êtes saint, soyez saint parce que je le suis, dit Hashem. Maintenant, on peut aussi dire, on pourrait dire aussi « Soyez saint et vous le pouvez parce que moi je le suis ». C'est-à-dire, c'est le fait qu'Hachem soit Kadosh qui permet à son peuple d'être Kadosh, en fait. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de lire le quart, ici, sous forme de « Soyez saints parce que je le suis ». Parce qu'à la limite, de façon générale, on connaît déjà cette mitzvah qu'il y a de ressembler à Hachem. « Ma'ou rachoum, afata rachoum », de même qu'il est, lui, tendre, tu dois l'être aussi, « Ma'ou chanoun », il est gracieux, il faut l'être aussi, etc. Donc, Mao Kadosh, Afata Kadosh, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose de spécial ici? C'est la règle générale d'imitation d'Hachem, elle pourrait s'appliquer ici sans qu'on ait quoi que ce soit à dire. Et pourtant, si on dit ici, si on le met en évidence, c'est que c'est pas la même chose que simplement l'imitation générale de d'Hachem. Parce que, en fait, quand on, dans toutes ces midot d'Hachem où on nous dit, tu sois le parce qu'il l'est, parce que Hachem l'est, donc, là-bas, on peut comprendre que, en nous disant que Hachem est, par exemple, Hanoun, il est gracieux, si vous voulez, alors sois gracieux aussi, c'est, Hachem, il est ni gracieux, ni tendre, ni ceci, ni cela, ni rien de tout, il n'est rien de tout ça, Hachem. Non, c'est pas tout le temps le même qui va. Alors, comprend que nous dire quelque chose sur Hachem, c'est une comme on n'a rien à dire sur Hachem, c'est une façon de nous dire que sache cette mida-là, cette mesure, cette façon de se conduire, c'est une excellente façon de se conduire, et pour que tu sois convaincu que c'est vraiment excellent, je te le dis, c'est Hachem. On l'attribue à Hachem, ce qui permet de le présenter comme super excellent, si vous voulez. Ok ? Mais ici, on ne peut pas dire que la sainteté est une super mida, et il faut aussi la copier chez Hachem. Alors, peut-être que ça se discute, je vous dis ça comme ça, mais peut-être que ça se discute, dans la mesure où, dans Mesilat Yesharim, vous avez toute une échelle de midot, et vous avez très haut, dans le sommet, vous avez la Kdusha. Et donc c'est aussi une mida vers laquelle on doit tendre. Alors, le problème c'est, si c'est de cette mida qu'il s'agit, alors c'est vraiment le top niveau chez le Mesilat Yesharim. Alors, c'est un peu difficile d'entendre que ça nous est proposé à monsieur tout le monde, quoi, à nous aussi, quoi, que je suis un petit youb, comme si c'était quelque chose de tout à fait facile. Pourtant, ça, c'est presque impossible. Je veux dire, tel que c'est décrit dans le Mesilat Yesharim, c'est, si vous voulez, dans le Mesilat Yesharim, le ce qui mène, on va en reparler, mais ce qui mène à la Kdusha, c'est ce qu'on appelle la Dvekut. Dvekut, ça veut dire coller, littéralement. Alors, on dit, Avatem Advekim Bashem Elokechem, Chaim Kulchem Ayom. Vous qui êtes Dvukim Bashem, vous qui collez à Hachem, vous êtes réellement vivant, parce que vous collez à la source de vie, donc vous êtes vraiment vivant. Donc, c'est une forme de vie intense, en quelque sorte. Bon, alors maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël? Tu leur diras Kedoshim Tiyu. On est quasiment à la moitié de la Torah. Tout à coup arrive Kedoshim Tiyu. Alors c'est toute une discussion pour savoir est-ce que Kedoshim Tiyu est une mitzvah? Est-ce que c'est une des 613 ou mitzvot? Ou non, c'est pas une mitzvah. C'est un conseil général, c'est un principe plus général que les mitzvot ou qui englobe beaucoup de mitzvot. Ça, c'est une question ouverte. Il y a un des Géonim qui pense que c'est une des mitzvot. Mais la plupart pensent que non, que c'est plutôt un principe. Maintenant, la question qui se pose, c'est intuitivement, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh? Comment est-ce que vous diriez, si on parle de la Kdusha? C'est pour un homme ou une femme, être kadosh, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Indépendamment, sans, je ne vous demande pas ce qui est écrit dans la Torah, mais vous diriez quoi? Quand le mot saint, il veut dire quoi? Supposons que ce soit une bonne traduction. Le mot kadosh, il veut dire quoi? Quand on parle de Kdusha, on parle de quoi? De
séparation.
Bon, alors ça c'est la séparation, ça c'est ce qu'on a dit souvent. Bon, c'est pratiquement, c'est le Rashi, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Séparé de quoi? Kadosh, c'est séparé de quoi? Alors, si vous lisez la séparation de façon absolue, vous allez vers l'ascétisme, d'accord? Ça veut dire quoi? Vous séparez du monde. Ça, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que la Torah, elle ne demande pas, au contraire, elle n'est pas pour une séparation. Il n'y a pas de vie monacale chez nous, ça n'existe pas. On se coupe pas du monde. Bon, il y a des exemples de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais bon, c'est tout à fait exceptionnel, je veux dire, et c'est pas un chemin pour tout le monde. La Gemara elle-même dit que beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon et ça n'a pas marché. Beaucoup. Enfin, il y a des gens qui ont essayé, parce qu'on n'a quasiment pas d'exemple de gens qui ont essayé de faire comme lui. Lui, son fils, bon. Mais, alors, bon. Disons séparé. Séparé, il faut dire séparé de quoi? Si vous voulez dire séparé.
De l'impureté.
Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire être pur. Alors, ça s'appelle Tahara. Soyez Tehorim. Pourquoi Kedoshim? Donc, c'est un peu compliqué intuitivement, Qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est connu. Le Rashi, il est très connu. Le Rashi traduit. Le Targoum, lui, il n'a pas traduit. On connaît s'il n'a pas traduit. Il a rendu Kedoshim par Kedoshim. Il n'a pas dit autre chose. Yonatan Menouziel non plus, il a pas traduit. Ils disent Kedoshim, il a traduit Kadishin. En araméen, ils n'ont pas expliqué, en quelque sorte. On gagne rien à regarder la traduction ici, à la traduction en araméen. Mais Rashi donne quelque chose. Rashi dit, Kedoshim tiyu, et vous prochim, mina arayot ou mina avera. Prochim, il a traduit parouche, ça veut dire séparé, effectivement, séparé. Ça donne le mot pharisien en français. D'accord? Que dans la civilisation chrétienne, les pharisiens, c'est l'abomination, mais c'est nous. Nous sommes des pharisiens. Les prochim, c'est ceux qui étaient mis dans la Torah chez Baalpé. Ils opposaient aux tzedoukim, aux sadducéens, qui eux ne croyaient quasiment pas aux drachot de Chazal. Donc c'était l'establishment à l'époque à l'époque de Hanouka, ceux qui étaient acquis aux idées grecques, c'était les Sadducéens. Les opposants, c'était les Prouchim, donc c'est ça. Et nous sommes des descendants des Prouchim, toute la Gemara, c'est des Prouchim. La Gemara, tous les maîtres de la Gemara, du Talmud, et de la Mishnah, sont des Prouchim. Prouchim, séparés, donc. On n'a encore rien gagné, parce que eux, lui, il a traduit Kadish par Parouche. Prouchim, c'est, mais pas n'importe quoi. Prouchim, mina arayot, ou mina avera. Alors ça, c'est, on comprend pas très bien. Il faut se séparer des arayot. Il veut dire par là, il faut se séparer des relations sexuelles entre un homme et une femme, relations sexuelles qui n'ont pas le droit d'avoir lieu. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'ordre de l'inceste, au sens large du terme. Bon. Si on transgresse ça, on a fait une avéra. Alors pourquoi Rashi, il amène ces enseignements? Séparez-vous des harayot et de la avéra. Mais là, pourquoi singulariser harayot? C'est une avéra comme une autre, non? S'il avait dit, et vous prouchez, mina avéra. Séparez-vous des avérotes. Maintenant, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire de nous séparer des avérotes? Évidemment, si c'est une avéra, il faut se séparer. Quand la Torah, elle m'a interdit quelque chose, ça veut dire que je dois m'en séparer, non? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, séparez-vous? On est en train de parler de choses qui sont interdites, et on lui dit, sépare-toi des choses qui sont interdites. Je vais m'en séparer. Bon, évidemment, je dois me tenir à distance de ce qui est interdit. Si vous voulez, on ne comprend pas très bien pourquoi il faudrait s'en séparer. Ça veut dire, il faut prendre la distance. Ça veut dire quoi? Si les harayot, il faut prendre des mesures. Une avéra, quoi. Ça veut dire qu'il faut passer, quand il y a une khatikha c'est une tranche de jambon, il faut faire un détour. Ça veut dire qu'il faut s'en séparer. Ça veut dire qu'il faut faire un détour. Pourquoi? Il faut contourner la boucherie. Il ne faut pas passer devant la boucherie. Qu'est-ce que ça veut dire, vous séparer de quelque chose qui est interdit? De quoi vous dites? Comment tu vas te séparer? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et puis, pour se séparer, il faut avoir été déjà...
Peut-être pas avoir été, mais pouvoir. C'est un choix. Je te dis de sépare-t'en. Ça veut dire que tu pourrais ne pas t'en séparer. Je te conseille de te séparer. Mais évidemment qu'il faut se séparer des avérotes.
Mais c'est pas la tranche de jambon. Si on mange une tranche de jambon, c'est une avéra.
Oui,
on revertit le foie, ça revient. Si on a une relation interdite, on peut avoir le fruit malsain de cette relation.
Non, ça c'est un fruit, c'est autre chose. Il n'y a pas de fruit. Vous parlez quoi? De l'inceste? C'est un inceste avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est aussi interdit, oui. L'enfant, ça aggrave la situation, mais l'interdit, il est là, même si c'est une fille qui est trop jeune, ou bien une femme qui est trop âgée, ou une femme qui est stérile, c'est tout aussi interdit. Donc, il n'y a rien à voir. Si vous voulez, l'interdit ne naît pas du fait du fruit. Oui, non, ils ont eu du mal. Rachi bien en train, il va nous expliquer un peu plus. Mais j'essaie d'abord de comprendre qu'est-ce qu'il nous raconte là.
Est-ce que ce n'est pas la vigilance, comme le premier niveau du Ramchal, qui est le point de départ de la.
Mais bon, mais c'est. Évidemment, il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la Kdoucha?
Est-ce que c'est le point de faiblesse?
De?
Le point de faiblesse le plus important.
Bon, mais pourquoi te dire de. Dans ce cas-là, on aurait dû dire sur les Arayot, dans la parasha des Arayot en particulier, qu'au lieu de les interdire, on aurait dû dire ben, il faut prendre des mesures, on ne peut pas être dans la même pièce, ou on aurait dû quelque chose de ce genre-là. Pourquoi? Alors Rachidi continue, et regardez ce que Rachidi dit. Rachidi, pourquoi c'est dit cela? Chez Kol Makom, chez Ata Motse, Geder Erva. Partout où tu trouves une barrière par rapport au sujet Erva, donc, partout donc, à ta motse Kdoucha, tu trouves de la Kdoucha. Et il va l'illustrer. Il dit comme ça. Regardez. Un Kohen, il a un interdit supplémentaire d'épouser, par exemple, une femme divorcée. Or, le Kohen, il a plus de Kdoucha que le Israël. Et ce plus de Kdoucha, il correspond à un interdit supplémentaire, à une barrière supplémentaire qui l'éloigne de la Erva. Alors, premièrement, est-ce que c'est vraiment évident, si vous voulez? Parce que le Kohen, il a un interdit d'épouser une Groucha. Mais ce n'est pas une barrière par rapport aux autres Arayot. Ce n'est pas une barrière par rapport à l'inceste. Il y a un interdit de Groucha, point barre. En quoi est-ce que Rashi présente ça comme si c'était une barrière? Il n'y a pas de barrière ici. Vous comprenez? On n'est pas en train de mettre une barrière. Il donne la même chose. Il dit finalement, ça tourne autour de chaque fois de la Kehuna, d'accord, que les Kohanim, ils ont de la Kdoucha supplémentaire qui leur vient de ce qu'ils ont plus d'interdits. Mais ce plus d'interdits, j'ai du mal à l'entendre comme une barrière. Non, mais c'est pas une barrière d'Erva. Enfin, une barrière par rapport à Erva, c'est de dire, par exemple, ce qu'on a fait d'interdire le Yichud, par exemple. Voilà, c'est une barrière. D'accord? Qu'est-ce qui est interdit d'avoir un rapport avec la femme de l'autre, ou avec le mari de l'autre? Enfin, pour une femme, c'est la même chose, c'est complètement symétrique, oui. Et pour une femme mariée, d'avoir un rapport avec un autre homme que son mari, ou bien pour un homme d'avoir un rapport avec une autre femme la femme de quelqu'un d'autre. Alors, je mets une barrière, comment? Ben, je dis, interdit de s'isoler. Ça, c'est une vraie barrière pour ne pas en arriver à avoir un rapport avec quelqu'un avec lequel je n'ai pas le droit d'avoir de barrière. Alors, je vais mettre j'ai pas le droit d'avoir de rapport. Alors, je vais mettre un interdit. Je vais fabriquer une barrière qui va m'empêcher, enfin, qui va me rendre plus difficile d'avoir un rapport adultérin, par exemple. Pourquoi? Parce que déjà, avec la femme de l'autre, je peux déjà pas être seul dans la même pièce. Donc, c'est bien une barrière par rapport au fait d'avoir un rapport avec elle. Mais quand on dit qu'un Kohen, il n'a pas le droit d'épouser une Groucha, en quoi est-ce que c'est une barrière?
Une Groucha, c'est la femme de quelqu'un d'autre aussi.
Qui?
Une Groucha, ça a été la femme.
Non, mais c'est pas à ce titre-là. C'est parce que elle n'est plus, cette femme, non plus la femme de. Et par exemple.
Elle n'est plus, mais elle a été.
Oui, bon, c'est tout, c'est fini, elle peut se marier. Avec n'importe qui, cette femme.
Et le fait de limiter le choix de mariage, est-ce que ça n'invite pas une meilleure prise de conscience?
Alors c'est ça l'histoire. Ça veut dire, en quoi est-ce qu'il y a une barrière? On a allongé la liste des interdits. mais on n'a pas mis une barrière. Il dit Kolmakom Shatamotse Geder Erva. Un Geder, c'est une barrière, par rapport dans le domaine de la Erva.
De l'envie primordiale plus que de la loi qui dit on ne doit pas le faire.
Oui, mais comment on se sépare de l'envie primordiale, comme vous dites? Comment est-ce que ça veut dire se séparer de l'envie? L'envie, on peut considérer que une façon, comme dirait Rambam, une des façons de ne pas se laisser entrer dans ce genre de réflexion, d'envie, etc., c'est de se remplir la tête et le cœur avec de la Torah, c'est-à-dire si on se met à étudier ou on réfléchit, etc., alors effectivement, il n'y a pas de place pour des disons, ce qu'on appelle des mauvaises pensées.
Mais quand on dit à quelqu'un de limiter son alimentation, par exemple, on va lui dire tu prendras tes aliments ci et pas ces aliments-là,
voilà.
Ça donne une forme de fermeture qui fait qu'on sait qu'on ne peut pas se tourner vers n'importe quel aliment comme ça.
Ok, c'est vrai, mais ce n'est pas une barrière. C'est pas une barrière pour les harayot, puisque une goucha, c'est pas une herba en tant que telle. Et si c'est une herba en tant que telle, alors l'interdit, c'est l'interdit, il n'y a pas de barrière. Vous comprenez, deux choses l'une. Ou bien c'est un interdit comme un autre, ou alors c'est pas. Et dans ce cas-là, c'est pas une barrière, puisque c'est un interdit. Tu vas pas dire que l'interdit d'avoir un rapport avec sa mère est une barrière. C'est pas une barrière, c'est l'interdit lui-même. Vous comprenez? C'est un petit peu compliqué ici. Les exemples que donne Rashi sont pas du tout évidents. Mais il a parfaitement raison que le guéder de la Herva, c'est bien quelque chose qui va dans le sens de la Gdusha. Mais les exemples qu'il apporte sont étranges. C'est pas un guéder. C'est pas du tout une barrière.
Alors, donc là, on parle d'un guédi, et nous, on l'étend finalement aussi au poulet.
Oui, ce n'est pas une guédi, ça, c'est pas un guéder. On a étendu l'interdit. On a interdit l'interdit de parce qu'on ne peut pas cuisiner un agneau dans le lait d'une brebis qui n'est pas sa mère, déjà. D'accord ? C'est déjà une extension. Et après, en plus, si c'est même pas une brebis, mais dans du lait de vache, c'est encore moins évident. D'accord? Et puis si c'est pas de l'agneau, alors c'est aussi une extension. Il y a plein d'extensions dans ce domaine-là où on a étendu.
C'est une extension, par analogie,
Oui, mais c'est pas une barrière.
Le fait que ce soit une divorcée, c'est pas une extension.
On ne peut pas dire que c'est une extension parce qu'on l'a pas étendu on a étendu ça qu'à Kohanim, donc c'est pas vraiment une extension pour tout le monde. C'est eux, ils ont un statut particulier.
Et par contre, ce que disait Chiano tout à l'heure, c'est que ça, il y avait le fait de mettre c'est un interdit pour un Kohen, que ça, il y a une.
C'est un interdit.
Mais c'est que du coup, ça, il y a une élévation par rapport à ça, c'est-à-dire que ça le met dans un.
Oui, mais c'est pas une barrière. D'avoir, on peut dire que quand il y a plus d'interdits, il y a plus de Gdusha. Je peux dire comme ça. En Israël, il a plus de Gdusha qu'un non-Israël parce qu'il y a la liste est plus grande des femmes qui lui sont interdites, et un Kohen plus qu'un Israël, et le Kohen Gadol plus qu'un Kohen ordinaire. Mais c'est pas parce que on n'entend pas la notion de Geder. Galère, c'est un mot qui veut dire ce qu'il dit. Alors, de toute manière, il a l'air de dire que c'est dans le domaine des harayot qu'on a le plus à faire pour travailler la Gdusha. Mais après, il ajoute, et aussi les autres averot, en fait. Alors du coup, comme Arayot, les Arayot c'est aussi les Averot, je ne comprends pas très bien pourquoi avoir séparé les deux. Une Erva ou Mina Avera. Ça, c'est la Shita de Rashi. Le Ramban et Rabbeinu Bechaye, etc., ils ne sont pas d'accord. Et le Ramchal non plus. Et le Ramchal dit que ce que dit Rashi, là, cette prishut, le Ramchal dit, la prishut, c'est une étape pour arriver à ce qu'il appelle, lui, la chassidut. Et ça ne mène pas à la Kdusha. C'est pas ça la Kdusha. Ça ne mène pas à la Kdusha. Ça mène à une forme de chassidut, de piété, mais ça ne mène pas, dit le Ramchal, à la Kdusha. Je reviens tout de suite après, je vais revenir sur ce que dit le Ramchal. Qu'est-ce qui est, oui, la Kdusha? Qu'est-ce qui mène, oui, à la Kdusha? Je vous l'ai déjà dit. En fait, c'est la Dvekut. Et la Dvekut, c'est au contraire, c'est pas du tout se priver de quelque chose. C'est au contraire faire tout ce qu'on fait en étant au plus près d'Hachem pendant qu'on le fait. C'est pas du tout ne pas faire. C'est faire, mais d'une certaine manière. Faire d'une bonne manière, si vous voulez, de la bonne façon, à savoir, tu penses en permanence que ce que tu es en train de faire, que ce soit une mitzvah, que ce soit une bonne façon de se conduire, etc., tu le fais pour t'approcher d'Hachem, pour coller plus à Hachem. Ça, c'est la Kdusha du Ramchal. Et le Ramban et Rabbeinu Bechaye, eux, ils disent, il faut remarquer la chose suivante. Ils disent, il y a un domaine du permis et un domaine de l'interdit. Bon, le domaine de l'interdit, c'est interdit, c'est clair. Mais, dit le Ramban, dans le domaine du permis, tu peux te conduire de façon extrêmement grossière, si vous voulez. Par exemple, tu peux t'empiffrer. Tu ne manges que des choses qui ont un super air cher. D'accord. Mange que des choses qui sont... C'est un super air cher. Seulement, tu vas rechercher le plaisir que ça va te donner. Tu prends que des vins avec... super vins avec super air cher, ce que vous voulez. Et tu bois tant et plus. Et la viande, etc. Et la même chose dans les relations conjugales aussi, dans le domaine du permis, mais sans limite. Enfin, disons, sans autre limite que l'interdit. Si la seule limite, c'est l'interdit, alors Ramban dit, on peut en arriver à être ce que lui, il appelle être menouval birchut haTorah. Menouval, c'est la même racine que nevala, nevela. Nevela, c'est une charogne. D'accord? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui se conduit très très mal. Dans l'échelle des valeurs, la charogne, ça n'est plus bon qu'à donner aux chiens. C'est une viande que les humains ne peuvent pas. Donc c'est plus humain, quoi, quelque part. Donc c'est inhumain, d'une certaine manière, que de se conduire de cette façon-là. Alors Ramban dit que de Shim Tiyu, ça veut dire ça. Ça veut dire, faites bien attention de ne pas considérer qu'il n'y a pas de limite dans le domaine du permis. Il faut se mettre des limites aussi dans le domaine du permis. Et ça veut dire, la limite, au lieu d'être uniquement entre le permis et l'interdit, il faut revenir dans son domaine, dans le domaine du permis, et mettre la barrière, si vous voulez, en deçà de la barrière entre le permis et l'interdit. Se mettre une barrière, c'est-à-dire, ça veut dire, par exemple, de ne pas boire plus que, bon, ça n'est pas en France ou ailleurs, et ne pas manger plus que tant et tant de kilos de viande, etc., et de sucreries, etc. Tous. Donc on a ici trois chitotes. On a le Rashi qui dit « Prushim Tiyu », c'est-à-dire quelque chose qui, par ailleurs, le Ramchal le dit aussi, le Gaon le dit ailleurs aussi, il faut faire très attention avec cette histoire de Prushim, de ne pas tomber dans l'ascétisme. D'accord ? Ce n'est pas de chez nous, l'ascétisme. C'est vrai que de temps en temps, on entend des rachamim qui sont beaucoup privés, etc. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas de l'ascétisme. Je ne sais pas comment eux, ces rachamim-là, comment ils sont débrouillés. Ils doivent savoir ce qu'ils font. En tout cas, les mefarshim, ils disent attention à ne pas tomber dans l'ascétisme. Il ne faut pas se couper du monde. Razal vont jusqu'à dire qu'on aura des comptes à rendre pour toutes les choses auxquelles on n'aura pas goûté. Il faut goûter, on n'est pas obligé d'en manger, mais c'est une bonne chose, ben goûte. Je t'ai mis à ta disposition, profite. C'est fait pour... Si c'est à ta disposition, c'est que ça peut t'apporter quelque chose. Ça peut te donner une certaine ouverture, voilà, vers quelque chose. Alors, fais-le. Mais il faut faire attention. Ça, c'est Rashi. Le Ramban qui dit, ben, il faut mettre des limites dans le permis. Et le Ramchal qui dit, il faut faire tout ce qui est permis, évidemment, avec toujours l'attention, être sûr que je suis toujours auprès d'Hachem en faisant ça. D'accord, ma proximité avec Hachem, elle n'est pas rendue impossible parce que je me conduis de cette manière-là. Ça, c'est le souci qu'on doit avoir. Bon. On va laisser ça pour l'instant. Et on va regarder. Et la question, c'est est-ce que la suite est une illustration de Kedoshim Tiyu? Les autres. Après, il vient des mitzvot, ouais. Une liste de mitzvot. Comme on en a vu jusqu'à présent, tout Mishpatim, tout, etc. Pourquoi est-ce que ces mitzvot-là sont dites après Kedoshim Tiyu? Est-ce qu'elles ont à voir avec Kedoshim Tiyu? Est-ce que c'est une illustration? On va essayer de le voir. La première, c'est Ish imo ve'aviv tirao. Un homme, sa mère et son père, il devra les craindre. Ve'tshabtotai tishmoru, il faudra aussi garder mes Shabbatot. Et là, le texte dit encore Ani Hashem Elokechem. Alors, la première partie, ça ressemble beaucoup à Kabed Tavicha Vetimecha qui est dans les Aseret Adibrot, sauf que l'ordre est ici changé. On dit dans Aseret Adibrot, on dit ton père et ta mère, et ici on dit ta mère et ton père. Pourquoi? Parce que dans le Kavod, on donne plus facilement du kavod à sa mère. Donc la Torah, elle te dit, donne du kavod à ton père en premier. Et on craint plus facilement son père. Alors la Torah, elle te dit, crains d'abord ta mère. Bon. Et puis, la juxtaposition avec le Shabbat, ça c'est... On a dans Aseret HaDibrot aussi une juxtaposition, pas dans le même verset, mais du Shabbat de Aseret HaDibrot, avec le Shabbat et les Kibbud Av Va'em, pour dire que si... On a un parent qui vous dit de faire quelque chose pour lui qui implique que l'enfant doit transgresser le Shabbat. Alors, l'enfant, il n'a pas un dilemme, affreux dilemme, entre Shabbat et la mitzvah de Kibbud Av Va'em. Il n'y a pas aucun dilemme. Si les parents demandent quelque chose qui est mechalel le Shabbat, c'est comme s'ils n'avaient rien demandé. C'est pas que je me demande est-ce qu'il faut leur obéir quand même. Non, ça commence même pas. Pourquoi? Parce que les parents sont astreints au Shabbat de la même manière que les enfants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de dilemme. C'est évident que Shabbat prime. Alors, dans Aseret HaDibrot, ni Kibbud Av Va'em, ni Shabbat n'est dit, à la fin, c'est pas marqué, Ani Hashem Elokechem. Ici, ça termine en disant Ani Hashem Elokechem. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte d'ajouter Ani Hashem Elokechem? Le fait qu'Hashem soit notre Elohim, notre Dieu, pourquoi est-ce que c'est mentionné ici? Parce que ce ne sera pas seulement ici. Si on regarde la prochaine mitzvah, la prochaine suite de mitzvot, Al Tifnu El Ha'elilim, ואלוהים עשיך לא תעשו לכם, אני השם אלוקיכם. אל הבא, בואו, on la suite se présente un petit peu différemment, mais c'est un peu du même ordre quand même. Par la suite, on aura toujours, dans les autres mitzvot, toujours cette mention de Ani Hashem Elokechem. Alors, qu'est-ce que ça vient dire ici? Qu'est-ce que ça nous apporte, cet ajout de Ani Hashem Elokechem, sur toutes ces mitzvot-là en particulier? Pourquoi Ani Hashem Elokechem, ça pourrait se dire après n'importe laquelle des mitzvot. C'est toujours des mitzvot qui viennent d'Ani Hashem, d'Hashem notre Dieu. Donc, pourquoi est-ce que ici, en particulier, c'est dit? Rashi dit, Ani Hashem Elokechem, Ata ve'avicha, donc il le dit sur le Shabbat, Ata ve'avicha, Chayavin bichvodi, lefichach, lo tishma lo levatel et dvarai. Bon, là-bas, Rashi l'explique par en expliquant le Shabbat, quoi, plutôt que Ani Hashem Elokechem. Alors, on va regarder le prochain, parce que dans le prochain, il y a une explication de Rachaim qui pourrait nous être utile, ici aussi. Sur le prochain, alors, le prochain interdit, il est donc, on a vu sur l'interdit d'idolâtrie, on y reviendra après. « V'chitis b'chou zevar shlamim l'Hashem » Non, on peut rester sur le premier interdit d'abord. Sur Altifnu Elilim, Ve Elohim Asecha, Lota Asulachem, Ani Hashem Elokechem. Alors, le Or HaChaim dit la chose suivante. Il dit, pourquoi est-ce que le verset nous dit Ani Hashem Elokechem ici? Il dit qui bema sheyishmor atzmo meisur ze c'est la avodah zara beze Hashem Elokav, c'est-à-dire ani Hashem Elokechem, c'est-à-dire je ne serai Hashem votre Dieu que si vous respectez l'interdit de fabriquer les idoles. D'une certaine manière, le problème des idoles, c'est un problème très intéressant. Parce que, ici, dans ce passouk-là, les idoles, elles sont présentées comme Elilim. Et le mot, Elilim, c'est connu, ça veut dire les idoles, mais en réalité, on peut le lire d'une autre manière. On peut le lire, c'est Rashi qui le propose de lire comme ça, que le Aleph Lamed de Elilim, il ne faut pas le lire comme étant un mot qui indique la divinité, d'accord, mais comme étant la négation. C'est comme le Lo, Al au sens de Lo, Lamed Aleph. Ça veut dire, ces choses-là sont du néant, elles sont du rien. Mais si vous leur accordez de l'importance, alors, et puis vous allez en faire des idoles, alors vous en faites des idoles. C'est rien du tout. En fait, c'est rien. C'est un rien que vous fabriquez, vous leur donnez cette dimension d'idole. Alors le Rachaim dit, je ne suis Hachem, votre Dieu, en fait, que si vous respectez cet interdit de fabriquer les idoles, c'est-à-dire à partir de rien du tout, parce que c'est rien du tout, vous en faites une divinité. Si vous inventez des divinités, alors je ne suis plus votre Dieu.
Donc, il y a une création, là.
Oui, il y a une création au sens où c'est l'imagination des hommes qui fabrique des dieux. C'est vraiment des dieux fabriqués par les hommes, par l'imagination des hommes. Donc, à partir de rien du tout, vous pouvez faire des dieux. Mais si vous faites ça, alors je ne suis plus Hachem Elok Efren. Je ne peux pas fonctionner comme étant votre Dieu. Bon, alors maintenant, si on prend cet exemple-là, et qu'on essaie de lire les versets d'avant aussi avec cette manière-là, alors sur Shabbat, on peut dire, je ne suis Hachem votre Dieu que si votre observance du Shabbat est plus grande que votre piété filiale. Parce que si votre piété filiale, si votre kibud av va'em ou yirat em ve'av, c'est plus grand, plus important, alors je ne suis plus votre Dieu. Parce que vous avez mis quelque chose au-dessus de mon Shabbat, c'est-à-dire au-dessus du signe que j'ai déterminé, ot him. C'est un signe entre vous et moi, dit Hachem, le Shabbat. Si vous mettez quelque chose au-dessus de cela, alors je ne... Donc c'est très important ici. Alors, est-ce que c'est ça, la Kedusha? Est-ce que c'est ça, Kedoshim Tiyu, veillez à ne pas faire des choses qui feraient que vous ne pouvez pas, que je ne pourrais plus jouer mon rôle de Hachem Elokechem. Kedoshim Tiyu, parce que je suis Kadosh, alors vous aussi, soyez Kedoshim, c'est-à-dire veillez à participer à cette Kedusha, en fait. Le que, ça veut dire, vous pouvez l'être parce que je le suis. D'une certaine manière, c'est comme si Hachem disait, je me mets en quelque sorte sous votre dépendance. Vous avez une façon de vous conduire qui va faire que je ne pourrai pas jouer votre rôle, jouer mon rôle de Hachem Elokechem. Je ne serai pas votre Dieu. Souvent on dit que, effectivement, on le dit sous forme de la Shrina. Si on se conduit de telle ou telle manière, la Shrina ne peut pas, la présence divine ne peut pas résider. Ici, c'est pas en termes de Shrina, c'est Hachem lui-même qui dit, je ne pourrai pas être votre Dieu si vous mettez d'autres choses au-dessus. Et donc, peut-être que la démarche de Kedusha, c'est de veiller à cela. Veiller à ne pas mettre autre chose très haut, parce que ce faisant, vous m'empêcheriez d'être votre Dieu. Alors, c'est ça la Kedusha, alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans Arayot? Si on ne met pas une barrière dans Arayot, pourquoi il faut mettre une barrière? L'interdit des Arayot, c'est, si vous transgressez l'interdit des Arayot, eh bien voilà, je ne pourrai pas jouer mon rôle d'être votre Dieu. Alors pourquoi est-ce que... Alors comment est-ce qu'on fait dans Arayot? C'est, semble-t-il, tellement important que là, il faut mettre une barrière. Si vous ne mettez pas une barrière, alors je ne pourrai pas jouer mon rôle. Ce n'est pas simplement ne pas transgresser. Parce que mettre une barrière, ce n'est pas simplement ne pas transgresser. Si on ne met pas la barrière et qu'on ne transgresse pas, on n'a pas transgressé, mais on n'a quand même pas mis la barrière. Ici, on dit le guéder de Kedusha, il dépend de l'installation de la barrière. C'est-à-dire, alors maintenant, il faudrait essayer peut-être d'expliquer pourquoi c'est dans Arayot qu'on a tous, dans ce problème-là, qu'on a cette nécessité de mettre une barrière, plus que dans les autres, bien que Rachid dise après aussi « Ube Avera ». Mais visiblement, il a quand même singularisé tout le sujet des Arayot. C'est clair à peu près ce que je raconte, hein? Oui.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris. C'est-à-dire que pour les Arayot, ce n'est pas seulement de ne pas faire l'interdit, c'est qu'il faut mettre la barrière.
Là, il faut mettre une barrière. Semble-t-il, là, il faut une barrière pour qu'il y ait il y aura de la Kedusha si on ne transgresse pas les autres Averot, mais là, il faut une barrière. D'une certaine manière, dans Arayot, ce serait un sujet qui est tellement particulier que, lui, on est obligé d'y mettre des barrières. Si on ne met pas de barrières, ça ne va pas marcher.
Est-ce que ça ne laisse pas supposer que c'est presque au-delà de l'homme?
Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas.
Bien, alors, on va peut-être y revenir. Pour l'instant, je mets ça en sommeil. Le verset suivant dit... Vechitis bechu zevach shlamim, l'Hachem, L'irtzonchem tisbachou. Maintenant, on parle de quelqu'un qui fait la shrita d'un korban qui s'appelle shlamim. Korban shlamim, c'est un korban essentiellement, c'est un korban dont on va manger la viande. Les hommes vont manger la viande. Il y avait un temps, au début, où on ne pouvait pas faire la shrita d'un animal pour le manger sans passer par le korban. C'est-à-dire qu'il fallait en faire un korban, et ensuite, vous savez, dans un shlamim, on prend une toute petite partie des entrailles et de la bête qui est grillée sur l'autel, et tout le reste est mangé par... Alors, dans les shlamim, c'est mangé par les propriétaires. Donc, quelqu'un qui voulait manger de la viande, ben, il en faisait un korban, shlamim, et puis la... Ce qui fait que le gros avantage, c'est que quand il mangeait, il faisait une mitzvah de manger le korban. Parce que manger le korban, c'est dans ces korbanot où on mange, où ce sont les hommes qui mangent, c'est la même chose que quand dans un holocauste, dans une hola, où le korban est entièrement consumé, il est brûlé par le misbeach. Donc la consommation et la consommation, c'est la même chose. Les hommes, dans ce cas-là, ils ne mangeaient pas seulement de la viande, ils faisaient une mitzvah de manger la viande du korban. Après, on a permis la shrita directe, la shrita de chulin, sans passer par un korban. Mais au départ, c'était comme ça. Donc, celui qui veut faire un korban, shlamim, a priori, shlamim, c'est la shon shalom, ça veut dire c'est quelqu'un qui, par exemple, qui se sent un peu éloigné d'Hachem, il a envie de se rapprocher, de faire la paix, il veut... Alors, il donne un korban de shlamim. Il y a des cas où la Torah nous prescrit d'importer un korban shlamim, mais on peut aussi donner un korban shlamim volontairement, sans avoir d'obligation. Alors, celui qui fait cela, alors, l'irtzonchem tisbachou. Alors, vous faites la shrita, mais l'irtzonchem tisbachou, Rashi dit, trilat zvichato te almenat Nachat ruach sheye lachem le ratzon. Il faut que vous pensiez, quand vous apportez un korban, que vous voulez que ce korban soit agréé. Le problème de l'agrément, on l'a nous aussi dans la tfila, n'est-ce pas? Après avoir fait toutes les demandes dans la tfila, on demande à Hachem retse, agréé. C'est pas du tout évident. Hachem pourrait très bien ne pas agréer nos demandes. Donc, il y a une demande spécifique d'agrément. Alors ici, on nous dit, il faut que vous veilliez, vous ayez un souci, que votre korban, que votre démarche, ici, soit agréée par Hachem. Alors, Rashi dit, si, effectivement, quand vous faites la shrita, vous n'avez pas ce souci-là. Mais il faut peut-être... lisons juste la suite pour que vous compreniez mieux. Un korban, comme tous les un shlamim, comme tous les korbanotes, il a un temps et un lieu où il peut être mangé. D'accord? Il y a toujours l'Akdoucha, elle va donner une restriction en temps et en lieu. Le lieu, c'est qu'il faudra manger dans les murailles d'Yerushalayim. Et le temps, on aura deux jours, le Yom Zifrachem, le jour où vous avez fait la Shrita, ça sera mangé, ou Mimachorat. Et aussi le lendemain. Donc c'est deux jours et une nuit, et la nuit entre les deux. Ve'anotar, et si maintenant il reste de la viande, on n'a pas eu le temps de tout manger, on n'a pas eu... Finalement, on n'a pas eu assez d'appétit, on l'avait vu trop gros, peu importe. À notar, à Diomash Lichi, ce qui va rester jusqu'au troisième jour, Ba'esh Issaref. Il faudra le brûler, Pas en tant que korban, mais le brûler pour le faire disparaître. Et si jamais on venait à le manger, alors c'est quelque chose de totalement inacceptable, et l'oiratse, ça ne sera pas agréé. Et celui qui va le manger, il portera sa faute, il a profané le sacré d'Hachem, et il chayav karet. C'est très grave. C'est la même sanction que celui qui mange du Hametz à Pessah ou qui mange à Yom Kippour. Bon. Alors, tous les commentaires font remarquer qu'on ne sait pas très bien à quoi il sert ce verset. Parce qu'au début du Sefer Vaikra, on nous a déjà expliqué tout ça. On sait très bien qu'un Korban Shlamim, on a 2 jours et 1 nuit pour le manger. Alors pourquoi on nous raconte ça encore une fois? Alors, il faut comprendre qu'ici, on n'est pas en train de nous dire quand on peut le manger, mais on est en train de nous dire que si quelqu'un, au moment où il fait la shrita, il pense le manger en dehors des limites de temps et d'espace, alors, enfin, si c'est le temps, alors ça sera karet, je veux dire, c'est... Le korban va devenir pasoul. Le korban ne sera pas agréé, c'est de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui... C'est problème uniquement la marshava, c'est uniquement la pensée ici. C'est pas le fait même. Le fait de manger en dehors des limites, ça c'est déjà, on le sait déjà depuis le début du Sefer Vaikra. C'est évident que c'est interdit. Mais le korban est invalidé, même si finalement je le mens, la personne va le manger dans les limites de temps et d'espace. Oui. Mais elle a pensé le manger en dehors des limites de temps et d'espace, le korban n'est pas souple.
Ça ne rappelle pas un petit peu cette explication, ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'explication du Ramal, qui dit on peut faire tout ce qu'on fait, du moment que ce soit dans un état de strict proximité.
Oui, c'est ça. Vous pouvez tout à fait dire ça. Il y a l'interdit, mais là, si vous voulez, on est allé encore un peu plus loin. C'est que même si au moment de la shrita, il pense qu'il va faire autre chose, c'est-à-dire, vous comprenez pourquoi il va penser une chose pareille? Ils sont cinglés, les gens? Non, c'est que ce korban shlamim, il peut être la résultante d'une spontanéité. J'ai envie de m'approcher d'Hachem. Donc j'ai envie de m'approcher d'Hachem de la manière dont j'ai envie de m'approcher. Non, je vais apporter un shlamim, mais bon, quand est-ce qu'on aura assez de monde? Ben voilà, dans 3 jours, on aura justement le tonton et la tata qui viennent, et machin, et truc, et on aura du monde. On va pouvoir manger le korban avec, comme il faut, on a pris une grosse bête, on aura. Voilà. Si donc il pense, oui, je vais manger dans 3 jours. C'est pas qu'il veut pas... C'est pas volontairement qu'ils veulent faire en dehors d'eux, mais il y a cette idée qu'il y a des règles. Et si tu ne te plies pas aux règles, alors ta spontanéité ne vaut rien du tout. Ça ne servira à rien de dire moi, je voulais bien faire, j'étais pas obligé, c'est ma bonne volonté, etc. Il y a des règles. Un korban shlamim, c'est 2 jours et pas 3 jours. Et donc, on voit ici. Cette notion d'exigence, finalement, d'exigence, on peut comprendre ici que ça c'est déjà la kdusha, pas simplement ne pas transgresser. Ici c'est, alors c'est pas une barrière, parce que c'est un véritable interdit en lui-même, mais ça montre quand même le souci qu'on doit avoir, c'est un problème c'est une pureté de la pensée, de la marshava. C'est une grande exigence, bien sûr. Et donc, voilà ce qui nous est dit ici. Même quand tu veux approcher un korban, alors il y a des limites. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des telles limites, effectivement? Alors bon, ça, on ne peut pas expliquer pourquoi, mais l'idée, c'est quand même, on ne peut pas dans le détail, je ne sais pas rendre compte du détail, mais dans l'idée générale, c'est que il faut se souvenir que tout ce qui est de l'ordre des korbanot et du Beth Amikdash, etc., tout ça c'est archi-limite. C'est-à-dire, le Rambam Maïmonide, il ira jusqu'à dire que c'est une concession à l'esprit du temps. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'aurait pas dû approcher des korbanot, etc. Seulement, c'était trop dur pour les Bnei Israël par rapport au monde environnant, c'est trop abstrait toute cette histoire où il n'y a absolument aucun geste, aucun. C'est trop dur. Et donc, on aurait. C'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est C'est Rambam qui le dit. Alors, bien sûr, il y a une grande levée de bouclier contre ça, parce que lui-même, le Rambam, dans la, ça, il dit ça dans le Moré Nouchim, mais dans le Yad, dans le Code, il ne parle pas de ça du tout, et il le traite comme quelque chose qu'évidemment on va faire, y compris dans les temps messianiques. Bon, dans les temps messianiques, ça ne sera plus une concession à l'esprit du temps.
Le cas qu'on est en train de traiter là sur celui qui ne peut pas penser
oui.
Le manger, il serait presque à une madrigal de Kohen Gadol, comme quand on rentre, donc le Kohen Gadol devait faire sa avoda, rentrer et n'avoir aucune pensée qu'il le...
Oui, enfin, ici on peut avoir une pensée, mais pas une pensée de transgression. Si quelqu'un pense que grâce à ça, mon fils il va entrer à la yeshiva, ou je trouve un shidour pour ma fille, etc., ça c'est pas interdit. Et ça peut être, il peut être intéressé, etc. Parce qu'on a la pensée qui est inacceptable, c'est une pensée qui parle d'une transgression. C'est-à-dire se mettre de nouveau au-dessus de la loi. D'accord ? Dans ma pensée, je me mets au-dessus de la loi. Or, dans tout ce domaine-là, si on s'éloigne un tant soit peu, on est dans l'idolâtrie. Ensuite. Ça, même sans le Rambam, c'est comme ça. Les lois du Beth Amikdash et les lois des Korbanot, elles sont extrêmement précises. Et si vous voulez, on pourrait dire, c'est pas tellement... Ok, d'accord, il en est resté. Et puis, je ne veux pas le perdre, alors on va le manger. C'est dommage. On ne mangera pas... on sait bien qu'on n'est plus en train de manger le corban, etc., mais on va manger pour pas gaspiller la vie. Gaspiller la viande, pourquoi le brûler? C'est, les petits Chinois, ils sont bien contents, ils voudraient bien le manger. Donc, aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, même si tu fais ça, quelle que soit ta pensée, ta bonne pensée, on pourrait aussi dire, on va le donner aux pauvres. Ouais. C'est les pauvres qui sont chayav. Ils auront mangé du notar, ils sont chayav karet. Donc, on ne peut pas. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de ne pas le brûler. Mais non, tu vas le brûler, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait exactement ce qu'il faut faire, et donc ça avoisine l'idolâtrie. Donc, on a passé par quoi? On a passé par la piété filiale, le Shabbat, l'interdit de l'idolâtrie, et les marchavot, la pensée, pendant qu'on apporte un korban. Et maintenant, on descend vers des choses... Jusque-là, c'était entre l'homme et son créateur, finalement, entre l'homme et Hachem. Mais ici, on descend. Et quand vous allez moissonner, alors tu vas être obligé de laisser les coins des champs, là, vous savez bien. D'accord ? On va les laisser pour les pauvres et les glaneurs, etc. Vous devez laisser les coins des champs pour les pauvres. Pour ceux qui n'ont pas de champs, donc. Donc déjà, maintenant, il y a l'autre qui arrive. L'autre humain. C'est-à-dire, d'accord, donc, comme si je dis qu'on est en train d'expliciter Kedoshim Tiyu, c'est pas seulement dans le vertical, dans les relations de l'homme avec Hachem, d'accord, ou ses parents, etc., mais c'est aussi avec un autre avec lequel j'ai rien de commun, il se trouve qu'il est pauvre, alors je dois lui laisser. Et la même chose, la même chose dans la vigne, aussi il faut laisser faut en laisser pour les pauvres. Là aussi, ani Hashem Elokechem, de nouveau. Si vous vous comportez en propriétaire égoïste, qui ne pense qu'à soi, qui ne pense pas à l'autre, avec les biens qu'Hachem nous a donnés, alors vous ne me permettez pas de jouer mon rôle d'Hachem Elokechem. Je ne peux pas être votre Dieu. Je ne veux pas être... Comme je disais, je veux pas être le dieu des gens qui se comportent comme ça. Et ça va jusqu'à... Alors là, une chose, on va peut-être enlever ça encore. Pasuk Yudalef. Lo tignovu, v'lo t'chachashu, v'lo t'chakru ish ba'amito, v'lo t'ishavu. Bishmi Ashaker, Bechilalta et Shem Elokecha, Ani Hashem. Là, c'est pas marqué Ani Hashem Elokechem, mais c'est marqué Bechilalta et Shem Elokecha. Donc, Elokim est déjà mentionné juste avant. Qu'est-ce qui est dit là? Tu ne voleras pas. Alors, c'est ici l'interdit du vol. Dans les 10 commandements, tu ne voleras pas ne concerne pas le vol des objets. Ça concerne le rapt. Donc, l'interdit de voler, il est écrit ici, dans le Kedoshim. Voler les objets. Velotechachashu, vous ne nierez pas. On vous a confié quelque chose, et vous n'avez pas le droit de nier qu'on vous l'a confié. Velotechachru, et vous ne mentirez pas. Et vous ne jurerez pas faux, en utilisant le nom d'Hachem, parce qu'on ne peut pas jurer sans le nom d'Hachem. Un serment, c'est toujours avec le nom d'Hachem, c'est comme si on voulait dire je dis quelque chose et je donne à ce que je dis le poids d'Hachem en quelque sorte. Ça veut dire je demande à Hachem d'attester que ce que je dis est vrai. Je dis Hachem vous dira bien que ce que je dis est vrai. Donc, quand c'est faux, c'est extrêmement grave. Le Lashon Hara, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, mais c'est vrai. Si quand on veut dire un mensonge, ça s'appelle Motsi Shemra. C'est un autre interdit. C'est aussi du même ordre, mais c'est un autre interdit. À ce moment-là, quand c'est... Il y a des halakhot là-dessus, vous avez raison. Dans le Shulchan Aruch spécial de Lashon Hara que le Chafetz Chaim a écrit, il traite tous ces problèmes-là. Est-ce que j'ai le droit de mettre quelqu'un en garde, etc. Et est-ce que j'ai le droit de croire quelqu'un qui me met en garde? Ça, on ne peut pas le régler comme ça, c'est tout un sujet. Mais vous avez raison, c'est un grand sujet. Et tu ne peux pas non plus tromper, ni c'est une autre forme de vol. Et tu n'auras pas le droit non plus de... Si tu es un journalier, quelqu'un qui travaille à la journée, il doit être payé le jour même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans ce verset 11, Yud Alef, il y a une espèce de crescendo. Il y a le vol, ou c'est ou bien un vol où tu vas prendre quelque chose qui n'était pas à toi, ou bien tu vas nier, ça veut dire, on t'avait confié quelque chose, donc tu n'es pas allé le prendre chez l'autre, mais maintenant tu nies qu'il te l'avait confié. Donc c'est une forme de vol, mais sans qu'il y ait le geste d'aller prendre la chose. Et vous n'avez pas le droit de mentir, et vous voyez, et ni de jurer à faux, on voit très bien que ça monte et, semble-t-il, il est plus grave de fauter avec la bouche que de voler. D'accord ? Le vol, il est tout en bas du verset. « Lo tignovu », mais après, le reste, c'est des choses avec la bouche. Jurer, mentir, etc. Et ça, c'est plus grave et c'est ça le « chiloul ». La profanation, elle n'est pas. On ne va pas dire que de voler la propriété de l'autre, c'est une profanation. C'est interdit, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que c'est permis. Mais je veux dire que c'est plus grave de mentir, de jurer à faux, etc., que de voler. Même si, éventuellement, en parlant, on peut aussi en parlant voler. C'est-à-dire celui qui dira « Non, tu ne m'as jamais rien confié ». Il dit, mais je t'avais confié, dix lingots d'or à garder pendant que je partais en voyage. Non, rien, tu ne m'as rien confié. D'accord, ça c'est l'auteur Rachachou, vous n'irez pas. Et donc c'est plus grave que le vol lui-même. Parce que c'est... Pardon ?
Nier, c'est un mensonge.
Non, nier quand c'est un mensonge. Mais maintenant, Il y a le mensonge lui-même, c'est-à-dire de dire cette chose-là est déjà réservée ou elle a été achetée, etc. C'est pas nier ici, c'est nier spécifiquement que tu m'as confié quelque chose. C'est un genre spécial de négation parce que dans cette négation, il y a aussi toutes sortes de lois. Est-ce qu'on nie, quand quelqu'un nie, est-ce qu'il nie la totalité, est-ce qu'il nie une partie? Et comment il peut... On a confié quelque chose et quand l'autre il vient le demander, ben, je ne l'ai plus, je ne l'ai pas. Ça m'a été volé. Alors si je n'étais pas payé pour le garder, c'est du gardiennage gratuit que j'ai fait. Je vous rends service, mais j'ai été cambriolé. On me l'a volé. Alors celui qui dit on me l'a volé, il va être cru s'il jure. Je jure que c'est pas moi qui l'ai pris, il n'a rien à payer. Parce qu'on le croit qu'il a été volé. On croit parce que ça, c'est comme. Sinon, plus personne va rendre service. Si après, il suffit de venir dire le contraire, je t'ai confié ça, tu dis non, ben, tu payes à chaque fois. Alors quand il dit non, ça dépend s'il nie complètement ou s'il nie partiellement. Si quelqu'un vient et dit, je t'avais confié 200, et il dit, non, en fait, ce qu'il m'a confié, c'était seulement 100, alors il y aura toute une procédure avec des serments pour voir s'il doit payer ou pas payer. Sur ce qu'il reconnaît, il devra le payer. Et ce qu'il ne reconnaît pas, éventuellement, il peut s'en tirer et ne pas payer s'il est prêt à jurer. Alors, qu'est-ce qu'il doit jurer? Bon, ça, pas qu'il faut trouver la bonne formule pour qu'il ne puisse pas se raconter « je jure là-dessus, mais je pense à ça », etc. D'accord, le jésuitisme est interdit. Pour d'autres raisons aussi. Voilà, on va s'arrêter là.
Le verbe « voler » dans les dix paroles est ici. C'est le même mot
ou oui.
Et comment ça s'explique? Il y a deux sens différents.
Non, c'est parce que tout ce qui est mis dans la deuxième table, là-bas, c'est tous des choses qui sont punies par la peine de mort. Or, le vol n'est pas puni par la peine de mort. Donc, on sait que c'est le rapt qui, lui, est puni la peine de mort.
Mais ce que je veux dire, c'est quoi le même mot? Non,
c'est un vol. Qui vole un œuf, vole un bœuf.
Oui.